Sud Radio, il est minuit. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles.
Bonjour Valérie.
Demain, l'arrivée de la flamme à Marseille, on sera avec Thomas Soto, Télématin, il sera à Marseille et toute la journée, France Télévisions.
Il sera à Marseille, il a son train.
Oui, oui, il aura son train, il sera avec nous quelques minutes avant de prendre son train. Donc Thomas Soto pour parler de l'arrivée de la flamme à Marseille, des programmes de France Télévisions demain, toute la journée consacrée à cet événement. Et puis nous, dans cette première partie, on va rendre hommage à Bernard Pivot. On devait avoir Guillaume Durand. Vous avez entendu peut-être Jean-Jacques Bourdin l'annoncer. Il a eu un petit contretemps. Mais quoi de mieux pour rendre hommage à Bernard Pivot que de l'entendre? Donc vous avez fait un zapping spécial Bernard Pivot. Et puis on aura Gérard Collard, notre libraire préféré, qui nous dira ce qui a changé, en quoi il a changé les livres, la littérature, ça a été quelqu'un de très très important. Ce sera tout à l'heure à 10h15. On va commencer tout de suite avec ce zapping spécial.
Sud Radio Média, l'instant zapping.
Et oui Valérie, un zapping spécial Bernard Pivot, c'était la moindre des choses parce qu'il a quand même marqué la télévision et a changé également la lecture à la télévision. On l'a appris donc hier, sa disparition à l'âge de 89 ans, c'est sa fille, Cécile Pivot, qui a annoncé son décès. Petit rappel de sa carrière, c'était dans le 20h de France 2.
Bonsoir. Ouvrez les guillemets en 1973, apostrophe en 1974, bouillon de culture en 1991, un peu plus de 30 ans de télévision avec une égale passion.
Bonsoir à tous. Eh bien oui.
Si vous savez le bonheur que j'ai eu pendant des années, mais depuis que j'ai 20 ans à peu près, à lire des livres, à parler avec les auteurs. Donc, la plus élémentaire de gratitude, c'est de transmettre ce plaisir.
Bernard Pivot, l'intuitif. Très vite, il convie de jeunes écrivains prometteurs, comme Jean-Marie Leclésio ou Patrick Modiano. Ces deux-là deviendront bientôt des prix Nobel. Bien entendu, les académiciens avaient table ouverte chez Pivot. Éric Orsenna et sa gourmandise pour la langue française.
C'est une tradition en France que les responsables aiment le français. D'amour, de gourmandise, de passion, d'amour.
Ou encore le fantasque Jean d'Ormesson avec qui Pivot ne cachait pas sa complicité.
Oh, le faucheton n'a pas...
Ouais. C'était drôle hein, de réentendre d'Ormesson.
D'Ormesson qui l'avait viré du Figaro. Ouais. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'il a fait de la télévision et il n'a pas été rancunier puisqu'il l'a réinvité de très nombreuses fois par la suite.
Je ne sais pas si vous avez écouté le papier d'Elisabeth Lévy ce matin dans le journal de Patrick Roger. Elle expliquait qu'avec la fin des chiffres et des lettres, c'était bizarre d'ailleurs
la concordance
de ces...
La fin d'une époque
et la fin du français, la fin de quelque chose. C'est vrai que la lecture a été détrônée par un peu les réseaux sociaux et la télévision. Il en parlait justement chez Quotidien. Bernard Pivot rappelait l'importance de la lecture car un livre, c'est tout un monde qui s'ouvre à vous.
Frotter à des personnages qu'on ne connaît pas, à des idées qu'on ne connaît pas, à des philosophies qui nous sont inconnues, à des civilisations qui sont historiques, à des mentalités qui nous sont étrangères. C'est ça, lire. Sinon, vous restez dans votre petit monde avec votre famille, avec vos petits amis, etc., avec votre petit boulot et avec la télévision le soir, c'est tout. Mais lire, c'est vous ouvrir au monde. C'est formidable.
Alors, il y a un auditeur, Stéphane, qui nous dit la chose que je regrette, c'est que le replay n'existait pas à l'époque, 732 émissions de Bonheur. Mais elles sont
sur l'INA.
Sur le site de l'INA, c'est ce que je voulais dire à Stéphane. Hein. Vous pouvez toutes les regarder. Moi, j'ai un petit, pas bémol, mais un petit sourire en coin, parce qu'à l'époque, c'était pas un carton d'audience non plus. Or, quand on écoute les hommages, évidemment mérités, ô combien mérités à Bernard Pivot, je pense qu'on a l'impression que toute la France regardait Bernard Pivot.
Faut pas oublier que c'était à 9h30, à 21h30
le vendredi soir
et qu'en face il y avait Patrick Sabatier et des gros shows d'émissions le vendredi, que ça soit à Vide Recherche ou les émissions de Sabatier. Ouais. Donc on regardait plus la machine à laver dans Porte-Bonheur qui était livrée à la ménagère. Absolument. Que
ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que tout le monde regardait Apostrophe, tout le monde ne regardait pas Apostrophe, mais il a évidemment marqué son époque et changé énormément de choses pour les Français et pour la littérature.
Et justement, toujours dans le quotidien, ils ont rappelé ce qu'était Apostrophe. Alors, il y a eu des invités prestigieux, on va le découvrir, mais aussi des embrouilles, et ils ont rediffusé l'embrouille avec Serge Gainsbourg.
La première d'apostrophe, c'est en 1975. Vous produisez 700 émissions qui rassemblent jusqu'à 5 millions de téléspectateurs. Un concept simple, vous venez de le dire, une table et autour d'elle, tout ça.
Présent ce soir sur le plateau d'apostrophe, Milan Kundera, Vladimir Nabokov,
Georges Simenon,
Borges et Le Clésio,
Jean d'Ormesson, de l'Académie française.
Apostrophe, c'est aussi une émission où on s'embrouille, mais avec classe.
Un art majeur devant une initiation. Enfin, un art mineur, comme ce que les connards et les conneries que nous faisons, nous.
Mais quel est pour le surréalisme, qui vous avez
influencé ? C'est rien de mineur, une chanson.
Mais si, mon petit gars.
Majeur, mais si, mon petit gars.
Mais qu'est-ce qu'il y a, le connard, là ?
Alors, c'est Béard qui te parle.
Oui, mais j'ai bien compris.
En quoi est-ce que c'est mineur, une chanson, ça rencontre
des gens ? Oui, c'est mineur. C'est mineur.
Mais non, il n'y a rien de mineur.
Tu...
Parce que si tu rates la peinture...
Tu n'as pas besoin... d'initiation pour la chanson.
Et alors, ce qui est assez étonnant, que j'imagine que vous avez vu un peu les JT ou les chaînes info. Évidemment, ce qui est marquant quand on regarde ces images, c'est les clopes, le whisky,
oui, absolument.
Une ambiance comme
absolument.
Ça, un peu club anglais, ce que met bien aussi Bernard Rapp. Oui. Ce côté où on pouvait, à l'époque, à la télé, fumer, boire et puis s'invectiver. Sans aucune censure,
bien
quoi.
Sûr. Mais c'est vrai que quand on voit les images, on est effectivement étonné de voir les clubs sur le plateau. Ça choque et ça surprend.
Et surtout que lui n'avait qu'un credo, Bernard Pivot, c'était le direct. C'est-à-dire qu'il ne voulait absolument pas que ça soit enregistré pour justement qu'il y ait cette émulation entre les invités qu'il recevait.
Alors, notre auditeur nous répond que l'INA, ça finit par coûter très cher.
Ah oui, ça, c'est payant.
Ouais, c'est payant.
C'est le site de ce qu'ils appellent INA Madeleine et c'est un abonnement.
D'accord.
Donc, il a raison, absolument. Hier sur Instagram, Fabrice Lucchini a été un des premiers à réagir à la disparition de Bernard Pivot qui a toujours ouvert ses émissions à La Fontaine, par exemple.
Il vient d'apprendre la mort de Bernard Pivot. Bon, beaucoup de gens m'ont appelé, des gens de télévision, de radio. Alors, j'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans mes idées. Et je me suis dit, je vais faire un Instagram parce que Pivot a compté de manière aussi importante, de manière aussi essentielle. Et je parle en tant que comédien, avec toutes les limites que ça a. Il a compté autant qu'un metteur en scène. Ce que nous avons fait ensemble, ce qu'il a eu la gentillesse de me proposer en me faisant des émissions entières sur La Fontaine, en faisant des émissions sur Paul Valéry, Roland Barthes, la manière dont il allait me voir au théâtre.
Et puis après apostrophe, il y a eu Bouillon de culture, où là, on ouvrait après la littérature à d'autres
aspects de la culture.
Cinéma, théâtre, danse, musique. Et évidemment, l'émission se terminait par le questionnaire de Proust, qui est plutôt devenu un questionnaire de Pivot. Il avait un peu...
C'était dans apostrophe aussi, hein.
C'était dans Bouillon de culture. Hein. Et les extraits qui vont suivre sont dans Bouillon de culture. Alors, dans l'ordre, je vous ai mis Guy Bedos, François Sagan... Alors, quel listing, hein. Guy Bedos, François Sagan, Bertrand Tavernier, Jean-Louis Trintignant, Micheline Prel, Frédéric Dard, Fanny Ardant, et pour finir, Marcello Mastroianni, qui ont répondu à la fameuse question...
Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ?
Réveille-toi, c'était pour rire.
Mes compliments, vous avez été parfaite.
C'était bon, mais on la double.
J'aimerais qu'ils disent « Encore vous ?»
Dites-moi, ma petite Micheline, vous en avez mis du temps à venir.
Eh ben, t'en as mis du temps.
T'as vu l'heure ?
Je ne vous attendais plus.
C'est pas trop tôt, mettez-vous là.
Salut l'artiste, où restez-vous, descendez ? Où est l'ascenseur ?
Et juste avant Marcello Mastroianni, je l'ai oublié dans ma liste, c'était Jean-Luc Godard qui parlait. Et donc, vous pouvez aller voir, là, pour le coup, c'est gratuit. Il y a un petit module, parce que là, j'ai dû faire un choix sur les personnalités. Mais il y a une compile qui a été faite par l'INA sur cette fameuse question.
Qu'est-ce que vous diriez à Dieu ? Le compte X de l'INA.
Exactement. Alors, comme d'habitude, on finit en chanson.
Oui.
Alors vous savez, alors je ne sais pas si vous la connaissez cette chanson. Alors Bernard Pivot aussi. Alors nous, on a plutôt traité la littérature parce que
on parle à Jarre. Un fou de sport et un fou de gastronomie, de vin. C'était un.
Eh oui, c'était un bon vivant, c'était un Bordelais qui aimait la bonne chair, qui aimait la bonne chair et le vin. Évidemment, il s'entendait. On la rend en foire avec.
Comme la rend en foire avec.
Pierre Perret. Ouais. Et Pierre Perret lui a écrit une chanson.
Très, très proche.
Et il lui a écrit une chanson, je vais vous la faire découvrir, qui s'appelle Pivot, écoutez-la.
Mais c'est pas avec le loto d'Alas que nos cellules se décrassent. Un homme est venu rehausser le niveau. La ménagère qui n'avait lu avant que la recette du cake a pris bouleversé que Chateaubriand n'était pas qu'un steak. Son époux n'ayant lu que des cantates sur les boîtes de camembert se mit soudain à citer Roland Barthes, Nietzsche et la Bruyère. Le vendredi, les Français rentrent chez eux bâclant leur dîner. Quelques sardines, un yaourt ou des œufs devant la télé où la nourriture audiovisuelle sera d'abord spirituelle car un seul homme à ce moment prévaut.
Incroyable, hein?
Ouais, super.
Vous ne connaissiez pas?
Ça me rappelle quelque chose. Je crois que j'avais dû l'entendre à l'époque. Et Stéphane a raison, dit n'oubliez pas la dictée. Effectivement, c'est Bernard Pivot qui a été. Qui a lancé cette dictée géante et amoureux des mots. De
je réponds à notre auditeur, comme j'écoute Sud Radio, il y avait un linguiste qui était invité dans la matinale de Patrick Roger. Voilà pourquoi je n'ai pas mis ce passage-là, parce que on en a parlé ce matin beaucoup avec Patrick Roger.
Ce ne sont pas les mêmes auditeurs.
J'espère que si. Sur la dictée. Mais on va pouvoir en parler.
En parler avec Gérard Collard,
écouter la chanson.
Elle est formidable, cette chanson.
Ouais,
et je sais qu'effectivement, ils étaient très, très proches et qu'ils s'aimaient infiniment. On se retrouve dans un instant avec Gérard Collard, libraire, pour nous raconter son Bernard Pivot, ce qu'il a changé pour les livres, la littérature et les libraires. À tout de suite.
Sud Radio Monaco.
97.9.
Sud Radio.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit, je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit, elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste, elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Sud Radio Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, ben, c'est Gérard Collard, notre libraire préféré. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Vous
Valérie.
Êtes libraire à Saint-Maur, c'est la griffe noire. Comment ne pas vous faire réagir au décès de Bernard Pivot? Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, Bernard Pivot?
Ah ben, c'est le premier qui m'a fait aimer les livres, qui m'a donné envie de, bah, d'être libraire quelque part, parce que jusque-là, les émissions littéraires, j'ai l'impression qu'elles n'étaient pas faites pour moi, et il a entrebâillé la littérature à un autre monde plus populaire, avec des mots simples que je comprenais, et puis il y avait de la gourmandise dans ce qu'il disait, et bon, c'est toute une époque, quoi. Ça, pour moi, ça a été quelqu'un de très important.
Oui, gourmandise, c'était son mot préféré, paraît-il.
Oui,
donc,
c'est vrai, ça se ressent, et puis gourmandise, c'était allié aussi à la nourriture, il était gourmand de la vie, hein. C'est un peu des caricatures, ça, des clichés, mais c'est exactement ça, on ressentait ça dans cet homme, il aimait vivre, et on sentait que le livre faisait partie de son amour de la vie, quoi.
Qu'est-ce que ça va être particulier, apostrophe, comme émission? En quoi c'était révolutionnaire à l'époque?
Bah parce que déjà, on comprenait ce qu'il disait. Il remettait à niveau les gens qui parlaient avec lui, les auteurs qui partaient des fois dans des phrases pas possibles, et il les remettait à niveau. C'était un très bon intervieweur, très bon vulgarisateur. Puis il faut dire aussi que c'était une époque où 5 millions de personnes regardaient cette émission parce qu'il n'y avait que 3 chaînes, quoi. Donc ça, c'est une époque très particulière.
Ouais. Vous l'aviez rencontré?
Oui, alors je veux dire que quand quelqu'un meurt, il faut toujours dire du.
Vous avez un selfie avec lui?
Oui, j'ai une anecdote parce que j'étais pas fan de Marguerite Duras. Il était venu dans ma librairie et sur une étiquette j'avais mis les écrivains boivent, les lecteurs trinquent. Et là, ça l'avait offusqué. Il m'avait dit mais vous savez monsieur, elle vend énormément de livres dans le monde, et je lui avais dit mais Barbara Cartland encore plus. Donc ça m'a été un peu glacé. Mais ça ne retire rien à l'admiration que j'avais pour et l'importance pour, qu'il a eue pour le livre. Quoi.
Pour le livre, oui, absolument.
Est-ce qu'il y avait une influence à l'époque, et est-ce que ça existe toujours? Est-ce que la télévision... Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a une influence, et est-ce que la télévision fait vendre des livres ou pas? Est-ce que passer chez Pivot...
Ça n'a rien à voir, c'est ce que je vous disais, ça n'a rien à voir, parce que déjà c'était en prime time, en plus il n'y avait pas beaucoup de chaînes, il avait un côté star, donc tous les gens regardaient ça le soir, hein. C'était vraiment le rendez-vous. C'était
mais est-ce que ça fait vendre des livres, une émission de télé à l'époque, maintenant, est-ce que ça faisait vendre, et est-ce que maintenant ça...
Oui. Ah oui, c'était, ça n'a rien à voir.
Moi, j'ai le souvenir d'une émission avec le linguiste Claude Agège. Il s'avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce que Claude Agège est un type, il est toujours brillant, toujours vivant, brillantissime, drôle, extrêmement pertinent. Il avait fait un show incroyable à Apostrophe. Tout le monde s'était précipité pour acheter ses livres qui étaient totalement illisibles. Et ça avait été un best-seller incroyable. Donc
J'avais toujours rêvé d'être une table de nuit pour voir la tête des gens au bout de combien de pages ils abandonnaient. Il y en avait un autre comme ça qui était Montaillou Village Occitan. Alors oui. Ça, c'était absolument extraordinaire. Et les gens revenaient un peu bêta en disant « je crois que je ne suis pas à la hauteur ». Mais en fait, c'était pas des livres qui étaient faits pour eux, c'était des livres d'universitaires. C'est un peu le risque, c'est un peu le risque quand on fait le show, quoi.
Oui, quand il y a le show.
Mais en général, ils se trompaient très peu. C'était un raz-de-marée. Maintenant, on peut plus comparer ça. Il y a 30 chaînes, les émissions littéraires sont en, je sais pas. Et puis en plus, vous savez, Pivot, c'est comme De Gaulle. C'est-à-dire que tout le monde dit Pivot, mais là, Pivot, il a un peu supprimé le quant à soi. Et là, maintenant, on revient dans les émissions littéraires, on revient à ce quant à soi très parisien. Il faudrait qu'on revienne quand même, on réécoute ces émissions et qu'on se redise, faut peut-être rechanger encore la façon dont on parle des livres.
Ouais, avec des choses plus populaires. Pierre. Et je voyais un extrait hier où il y avait Cabu qui était invité. Gilles nous a passé tout à l'heure dans le zapping un extrait où il y avait Serge Gainsbourg. Enfin, il y avait aussi un mélange. On ne se recevait pas entre soi, entre intellectuels, où on s'écoutait parler. Il y avait des débats, en fait, aussi. Il y avait beaucoup de débats d'idées sur ces plateaux.
Les gens n'étaient pas d'accord, mais ils ne s'insultaient pas forcément pour ça, quoi. Donc, on acceptait la contradiction de l'autre. Donc, c'était... Puis bon, il faut dire aussi, on va être honnête, la qualité des auteurs qu'ils recevaient n'est pas forcément peut-être la qualité des auteurs qu'on reçoit maintenant.
Non, voilà, mais c'est
un peu méchant.
Non, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait aussi que, alors je l'ai pas passé en interview, mais on voyait bien aussi que c'était des gens un peu torturés, les écrivains. C'est-à-dire que moi, ce que je retiens d'Apostrophe aussi, c'était de voir le visage de ceux qui écrivent et qui pour qui c'est une vraie difficulté parfois d'écrire ou compliqué. Bon, évidemment, je n'irai pas sur notre ami alcoolique aussi qui a fonctionné, mais ça faisait partie aussi des écrivains. C'est compliqué d'être écrivain, en fait.
Oh oui, c'est très compliqué, mais moi ce que je retiens de Pivot aussi, c'est qu'il nous a fait découvrir des gens qui n'étaient pas forcément connus. C'est-à-dire que contrairement à maintenant, on va vraiment dans la facilité où il y a beaucoup de buzz, de médias, dans la communication. Il nous a fait découvrir. Moi, j'ai découvert des gens. Là, ça me vient pas à l'idée, mais que j'aurais jamais lu s'ils ne les avaient pas invités. C'est surtout de la manière dont ils les faisaient parler. C'est-à-dire qu'on se disait, ces gens, ils sont un petit peu comme nous. On est capable de les comprendre. Alors que maintenant, parfois, on se dit, c'est pas pour nous, quoi. Donc ça, c'était un vulgarisateur. Hein. C'est-à-dire, c'était un passeur d'émotions avec des mots simples. Et ça, c'est vraiment du génie, quoi.
Oui.
Et puis on peut parler également de l'orthographe et la dictée. Je sais pour vous, Gérard, on se fréquente un peu, enfin on se connaît un petit peu. Et l'orthographe est très important pour vous. On l'a perdu, ça, avec les réseaux sociaux. Enfin,
oui, moi aussi.
Oui, Gérard aussi. Vous le connaissez mal, oui, Gérard, hein, je pense.
Il fait
pas mal de fautes, oui.
Mais comme vous êtes.
C'est pour ça qu'il rigole. Non,
Mais je pense qu'aussi c'est le combat, mais le combat il est aussi alors là c'est autre chose, c'est dans l'éducation, c'est dans le système scolaire et tout. Je veux dire que on a été un peu victime. Moi j'ai commencé à être victime d'un système de façon d'apprendre l'orthographe et qui s'est amplifié maintenant et on arrive à des catastrophes. Mais les enfants sont pas forcément responsables de ça. Puis il y a aussi que moins on lit, moins l'orthographe elle suit. Hein. Ça c'est tout un truc. Mais ça c'est un autre problème.
Ouais, tout le monde lui rend hommage ce matin, encore une fois, à juste raison. Néanmoins, je ne pense pas que si son émission existait aujourd'hui, il ferait autant d'audience. C'est-à-dire que le livre a quand même perdu beaucoup, beaucoup d'attrait.
Oui, mais je suis pas. Enfin, ça, oui, ça a beaucoup d'attrait, mais c'est parce que les médias ont donné de moins en moins de place aux livres, et puis les gens qui en parlent des livres dans les médias souvent sont des gens qui sont. On en revient à ça. Oui, entre soi, ce que Pivot n'était pas ça. Oui. C'est-à-dire que Pivot, on avait l'impression qu'on pouvait le croiser au café du coin, au resto et tout. Et ceux qui parlent des livres, enfin pas tous, hein, mais souvent, on a l'impression que bon, et soit ils parlent pour d'autres écrivains qui sortent de l'académie, ou que bon, on va les croiser la clôture. Des lilas, quoi, mais pas chez mon café, dans mon café à côté de chez moi, quoi.
Oui, on voit effectivement parfois cet entre-soi qui revient et qui
aujourd'hui tout le monde écrit aussi, hein.
Mais il faut dire qu'on manque de psychanalystes, donc comme les gens ne peuvent plus trouver de psychanalystes, ils écrivent, et ça ne se vend pas, mais bon, ils ont écrit un livre, donc ils sont contents. Mais un auteur, c'est pas quelqu'un qui a forcément souffert, hein. C'est quelqu'un qui sait écrire, qui a des mots, qui a un talent, c'est quelque chose de très particulier. Alors maintenant, tout le monde écrit, et comme tout le monde, on est dans l'égalité, on doit dire que tout le monde a le même talent, ce qui est complètement faux.
Oui, et puis une sorte de moutonisme,
de conformisme. Oui.
Quand je dis moutonisme, c'est le comportement moutonnier où tout le monde parle des mêmes livres, se renvoie à l'ascenseur et la littérature y perd un peu.
Ouais, je pense, mais bon, à l'époque, faut pas non plus rêver, hein. Il y avait aussi.
Oui, il y avait aussi ça d'entre.
On peut pas faire dans la nostalgie, parce que il y avait pas mal de neuneux et de daubes, pas possible, hein. Ouais. Je peux pas donner de nom, mais j'en connais encore. voilà. je veux dire, ça c'est une race qui se perpétue assez facilement.
Ouais, à noter ce soir que France 2 change ses programmes à 22h40. Vous pourrez suivre un documentaire qui s'appelle Les Vendredis d'Apostrophe, qui a été réalisé par Pierre Assouline, qui sera donc diffusé ce soir à 22h40. Je vous plais en speakerine.
Oui, vous êtes très bien.
À 22h40 sur France 2. Bon, rappelez-moi Chrysanthème, Gérard Collard.
K-R-I.
Oh, vous êtes méchant, Gérard.
Je
ne
suis pas méchante.
Et encore, c'est quand il est en forme.
C'est encore quand il est en forme. Mais il est débordé par l'enthousiasme. Moi, j'en profite pour rendre hommage à Gérard.
Et à tous les libraires aussi.
Oui, à tous les libraires. Mais Gérard, non pas à tous les libraires. Gérard a une particularité, c'est qu'il est gourmand, qu'il aime les livres, qu'il n'a pas de barrière et qu'il peut dire du bien d'un Marc Lévy, enfin ça non peut-être pas, mais d'un Guillaume Musso comme d'un livre plus exigeant, et je me félicite qu'à Parole d'Expert on ait réussi, quand on était sur France 3, à donner envie de lire à des jeunes gens qui n'avaient jamais pris de livre dans leurs mains, et vous avez fait ça, Gérard, depuis maintenant depuis combien de temps qu'on se connaît, près de 30 ans. Donc,
on vous retrouve dimanche à 14h sur Sud Radio.
Mais moi, ce que je voulais dire, c'est surtout aller chez votre libraire, parce qu'en ce moment, c'est très difficile. Et Pivot, il faisait ça pour les libraires, il faisait ça, pas ça pour les grandes chaînes. Ouais. Donc, allez chez votre libraire, surtout en ce moment, ils ont besoin de vous. Absolument. Ils sont gourmands aussi, ils ont plein de choses différentes à vous proposer.
Vous avez été le précurseur des petites affichettes sur les livres pour donner votre avis. Maintenant, on le retrouve dans plein de librairies, mais c'est vous le premier. Je encourage tout le monde à aller à la Griffe Noire votre librairie.
Allez chez votre libraire, près de chez vous. Surtout.
Et Gérard, alors, nous dit Stéphane, donne autant envie de lire que Pivot, c'est l'héritage. Bah voilà, moi je dis que vous êtes l'héritier de Bernard Pivot.
Non, je suis pas. Voilà.
Allez,
merci
à vous, merci Gérard.
À bientôt.
Tout.
Sud Radio, à Lannion, en DAB+. Sud Radio.
Tous les hommes et tous les mêmes, macho mais tu, monde de ma vie est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine, que tu le mérites, avec de la chance que vous aimez, dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière, tu peux croire que c'est qu'une crise, mat une dernière fois mon derrière, il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère, elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds, avec une autre ce serait pire, quoi toi aussi tu veux finir maintenant, c'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement, toi t'y pensais, rendez-vous, rendez-vous. Règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes.
Sud Radio, le supplément média.
Le supplément média avec Thomas Soto. Thomas Soto, bonjour. Vous êtes bonjour. À quelques minutes de prendre votre train pour partir à Marseille parce que... Oui ?
Je suis même presque à quelques minutes de rater mon train.
Ça va aller. Après,
merci en tout cas.
Merci d'être avec nous. Vous partez donc pour l'arrivée de la flamme olympique. France Télévisions est sur le pont, Télématin, où on vous retrouve évidemment tous les matins entre 6h, à partir de 6h30. Et puis, demain, la France accueille la flamme olympique sur France Télévisions. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui va se passer déjà chez vous à Télématin.
Oh bah, il va se passer déjà qu'on va être là-bas, puisque on prend le train pour Marseille-Saint-Charles tout à l'heure, et que toute l'émission est délocalisée, on sera sur le Vieux-Port, pas très loin de la mairie, à peu près en face, et on va donner le ton de cette journée, même si nous, on ne verra pas encore la flamme, hein, parce qu'elle arrive en fin de journée, et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est toutes les émissions qui vont se dérouler là-bas demain, avec une petite incise quand même pour le 8 mai, parce qu'on commémore aussi le 8 mai, la fin de la guerre. Donc, ça va être une journée très, très spéciale, très... très enflammé à tous les points de vue, parce que la flamme sous l'Arc de Triomphe, c'est toujours la flamme
à Marseille. Quel est le sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez le sentiment que ça va être un des événements importants de votre carrière de journaliste?
Je ne sais pas si ce sera un élément important de ma carrière de journaliste, mais j'ai l'excitation d'un grand événement qui débute. Ouais. Vous savez, quand j'étais gamin, j'attendais le début des Coupes du Monde de foot comme ça, puis j'ai l'impression que c'était interminable avant, et puis un jour, tac, on y est. Et ben demain, on y est dans les JO. On plonge dans les JO et on va pouvoir s'intéresser vraiment au sport, aux aventures humaines, à tout ce qui fait qu'on aime ça, qu'on aime ces moments de partage. Et je pense et j'espère qu'on va laisser un peu de côté toutes les polémiques, même si évidemment on parlera de tous les sujets, y compris des sujets qui fâchent.
Vous les trouvez ronchons, les Français ?
Oh ben on est ronchons. Mais c'est pas une spécificité française, parce que je me souviens que pour les Jeux de Londres en 2012, tout le monde chez nos amis britanniques a annoncé la catastrophe, c'était nul, on n'était pas prêt, c'était pourri, et ces jeux étaient somptueux. Donc moi je pense que comme on gagne un peu moins quand même que les Anglais à l'époque, nos jeux seront encore meilleurs.
Alors Thomas, dans les porteurs de flammes, je vais vous poser une question difficile, je vais vous demander votre chouchou. Il y a Tony Parker, Basile Boli, Didier Drogba, Soprano, Jean-Pierre Papin, qui vous émeut comme porteur de flammes qui vont porter cette flamme à Marseille?
Et ben d'abord, moi, ils m'émeuvent tous parce que j'adore le sport. Donc, tout ce qu'ils ont fait, chacun d'entre eux me touche énormément. Évidemment, l'OM des années 90 et 93, notamment avec Basile Boli, c'est particulier. Mais je veux dire, celui qui m'émeut le plus, c'est celui qui, pour l'instant, ne porte pas la flamme. J'ai lu dans le Figaro ce matin une interview de Michel Platini, qui, pour moi, est une icône absolue. Et il a été le dernier porteur de la flamme pour les JO d'Albertville en 92. Et là, la question, est-ce que vous allez la porter? Il répond, personne ne me l'a proposé. Et ben, je pense qu'il est urgent qu'on propose à Michel Platini de porter la flamme, parce que c'est un des plus grands champions qu'on a et on a un peu trop tendance à l'oublier.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est un oubli. C'est assez étonnant.
J'espère qu'un oubli, que ce sera corrigé, vraiment, parce que s'il n'y avait pas eu Platini, il n'y aurait pas eu Zidane. Il n'y aurait pas eu Mbappé, il n'y aurait pas eu 2018, il n'y aurait rien eu de tout ça. C'est sa génération à lui qui a enclenché tout ça.
Alors, dans quel sport vous allez aller voir quand les JO vont démarrer? Le tennis, j'imagine.
Alors, j'ai une petite faiblesse pour le tennis, vous me connaissez. En plus, il y a double dose de Roland-Garros, parce qu'il y a l'Open qui commence à la fin mai, comme à chaque fois. Et puis, il y aura ces JO qui sont de toute façon un climat très particulier. C'est vrai que je vais essayer de me glisser dans les travées de Roland-Garros. Après, je crois que le côté génial des jeux, c'est qu'on va voir des sports et qu'on s'intéresse, qu'on regarde à la télé des sports auxquels on n'aurait même pas pensé s'intéresser un jour et qu'on se prend au jeu. Donc je vais être scotché à ma télé, je crois, à peu près 12 heures par jour pour tout regarder, que ce soit de la télé, que ce soit le hand, évidemment. Moi, j'aime beaucoup les sports co parce que j'aime, j'aime, J'aime le ce qui se passe, l'aventure humaine, en fait.
L'idée de l'aventure humaine.
Donc votre copine peut aller faire des pyjamas parties, alors, pendant ce temps-là.
Sans commentaire.
Sans commentaire. Sans commentaire. Combien de temps vous allez rester à Marseille? C'est vous y êtes.
C'est la journée.
C'est la journée. C'est uniquement la journée. Donc on peut rappeler
pas le temps de se baigner,
que France Télévisions. Oui.
Si vous avez votre maillot de bain.
Oui.
Je prends tout. Alors ça c'est un souvenir, et un héritage de ma vie de reporter. Où que l'on aille, je prends toujours mon maillot de bain. Ça, c'est la base absolue. Les endroits les plus improbables, les pays qu'on visite pour des sujets d'actualité qui sont pas drôles, qui sont difficiles, machin, il faut toujours avoir son maillot de bain.
Et vous baignerez dans la Seine?
Alors, n'étant pas en responsabilité pour les JO, j'ai l'occasion de répondre très librement que j'attends de voir les séquelles dermatologiques chez nos camarades qui vont le faire et j'envisagerai peut-être la chose pour les Jeux de 2032.
D'accord. Et juste une question, quand vous prenez votre maillot de bain...
J'aime la Méditerranée, j'aime l'eau chaude.
C'était ma question, c'était quand vous prenez votre maillot, est-ce que vous vous baignez partout ou vous avez comme moi une petite température minimum avant de tremper un orteil?
Alors, je peux avoir la tentation de la température minimum. Après, j'aime tellement me baigner que le fait de pouvoir faire un petit plouf, ça l'emporte.
Demain, comment ça va se passer demain matin? Donc, le programme de un télématin un peu particulier, j'imagine?
Alors, c'est à la fois un télématin particulier et en même temps un télématin très classique, puisqu'on descend tous, il y a tous les chroniqueurs, toute l'équipe, donc la grille est la même, les rendez-vous sont les mêmes. Évidemment, on sera beaucoup plus teinté d'olympisme. On aura avec nous Robert Pires, qui sera notamment là à 8h15. On va suivre l'arrivée du Belém, on va voir toutes nos équipes, parce que c'est toute la puissance de France Télé qui est déployée à Marseille.
Il y a Mathieu Boisseau qui fait des sujets dans le 20h incroyable. Hier, ils ont essuyé une tempête, Valérie. Ouais. Et c'était assez étonnant de voir les images du Belém en pleine tempête. Il faut dire qu'il est depuis 10 jours sur le bateau et chaque jour, il y a des reportages faits incroyablement par la rédaction de France 2, je trouve.
C'est vrai. Et nous, on l'a pris tous les matins là, depuis une quinzaine de jours, Mathieu aussi, dans Télématin. Et ce matin, ils n'étaient pas loin de Toulon. Donc là, ils sont quand même... Au moins, eux, ils seront à l'heure, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ils étaient visités par des chiens renifleurs pour s'assurer, parce qu'évidemment tout ça est extrêmement sécurisé. Et voilà, pour voir. Et on a quand même un truc particulier à Marseille ce soir, c'est qu'on va aller voir le match du PSG à Marseille.
Et vous êtes PSG ou OM?
Alors moi, je suis Paris FC. Je suis Paris FC, mais sur des matchs comme ça, je suis et OM, à jamais les premiers, évidemment, et PSG, parce que je pense qu'on va avoir deux clubs français en demi-finale de Coupes européennes, c'est un truc de dingo, il ne faut pas bouder son plaisir, il ne faut pas être pisse vinaigre comme je dénonçais les gens qui croient qu'il n'y a que des choses qui ne vont pas.
Les gna-gna-gna, comme dit Madame Hidalgo.
Ça fait quoi d'être médaille d'or des audiences face à TF1?
Oh là, vous savez, le mont Olympe dans l'audiovisuel n'existe pas. Donc on est bien, voilà, on est très bien même, on marche très bien, on a une bonne dynamique, on fait une antenne qui est de très bonne qualité.
Je croyais que vous alliez me dire que l'important c'était de participer.
L'important dans notre métier, vous voulez, c'est pas de participer, c'est de rester en haut. Mais rester en haut, c'est beaucoup plus dur que d'y arriver. Donc c'est un travail, on remet vraiment tous les jours l'ouvrage sur le métier, ou le métier sur l'ouvrage. Non, c'est l'ouvrage sur le métier. Ça, non, c'est ça. Donc on n'est jamais à l'abri d'une inversion. La version fatale.
Bon. Alors Valérie, juste une précision. Ensuite, à 9h25, il y a les commémorations qui vont suivre Télématin.
Présenté par Julien Bugier.
Exactement. À 13h, bim, direct de Marseille avec Julien Bugier et des invités. 16h, la flamme arrive sur le Vieux-Port avec le Belém. Il y aura Louise Eklund qui sera sur place. Tony Estanguet, Marie-Jo Pérec, Théo Curin. Bim, le journal de 20h avec Anne-Sophie Lapix. Et à 20h45, qu'on en parlait hier
grande soirée
avec
pour
la patronne des divertissements de La Flamme. Et il y a aussi France Info TV et va être lancé, alors on n'a pas le temps de passer le son, mais va être lancé également l'appli des Jeux Olympiques de France Télévisions et la chaîne numérique qui s'appelle France.tv Paris. Et sur la chaîne numérique, vous aurez tous les sports et c'est le grand lancement demain de la chaîne numérique. Voilà un peu ce que va lancer Télématin demain.
C'est exact, vous avez tout dit, vous êtes parfait. Hein. D'ailleurs, on donnera le petit mode d'emploi très facile de cette application demain matin dans Télématin.
Si je vous demande votre mot préféré, on va avoir une pensée pour Bernard Pivot. Votre mot préféré, votre mot préféré.
Plaisir.
Plaisir. Votre juron préféré.
Putain.
Et qu'est-ce que vous aimeriez que
putain,
Dieu vous dise?
Pardon, si c'est tout à fait complet, putain, c'est dans le quotidien. Et quand vraiment quelqu'un m'énerve, et ça, c'est pas gentil, c'est connard.
Ah oui, moi, je partage assez vos mots. Et qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise le jour où vous arriverez auprès de lui?
Assieds-toi vite, il y a un match.
Ah, très bien. Bon, bah, on reste dans le sport avec vous. Ouais, écoutez, absolument. On sera...
pas que du sport. Je vais quand même vous signaler que jeudi, parce qu'on en est assez fiers aussi, c'est Salman Rushdie qui sera l'invité des KV. Donc, voyez, on est vraiment tout terrain, il y en a pour tous les goûts.
C'est vrai, matin. C'est vrai.
Et après la tenue de sport, vous emmenez votre maillot de bain à Cannes?
Alors, télématin avec la Cannes, moi, je ne descends pas à Cannes, c'est Daniel Tedlo qui va y aller. Bah, parce qu'on ne peut pas non plus, il faut partager un peu les plaisirs. Hein,
ah. Sais.
Et puis, je serai, pour tout vous dire, je serai de remplacement de Laurent Delahousse au 20h.
Ah bah voilà.
D'accord. Voilà. Donc, pas de Cannes, pas de maillot de bain. Mais en tout cas, Marseille, vous y serez. Vous prenez le train dans quelques instants. On ne va pas vous faire rater votre train.
Bah oui.
Vous voulez un scoop?
Oui.
Je prends le train avec Nico Saliagas qui part pour TF1. On s'est rendu compte hier soir qu'on était dans le même train.
Ah, c'est rigolo.
Battle. Merci d'avoir été. Et puis, c'est votre copain. C'est votre copain, effectivement, Lou.
C'est plus que mon copain.
Ouais. Merci à vous, Thomas Soto, d'avoir été avec nous. Et on va vous suivre demain matin à partir de 6h30 depuis Marseille.
Mais
grande journée.
Ça vaut la peine.
Ah, bah oui, on sera là. On est là, de toute façon, tous les matins, Thomas. Merci à vous.
Merci de votre gentillesse.
Tout de suite, le journal. Non, pas le journal, tout de suite, c'est. Tout de suite, les débats.
Écoutez Sud Radio Lyon en DAB+.
Sud Radio.
Avec ses arguments de te faire un papa, Cécile, ma fille.
Quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit alors, jubile. Ce sera un garçon, et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie des filles, j'en avais eu. Jouant mon cœur à face ou pile, de la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile, ma fille.
Et je sais que bientôt, toi aussi, tu auras des idées et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille.
Je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais.
Que toujours on te touche comme moi maintenant. Comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant, Cécile,
ma fille.
Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour les commentaires de l'actualité avec aujourd'hui Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Vous êtes également ancien agriculteur.
Bonjour.
Mathieu Bachialone, communicant, président de M2B Conseil.
Bonjour
à vous. Et Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Bonjour à vous. On va parler en quelques petits mots de Bernard Pivot, même si on en a parlé nous déjà dans l'émission Média. On va parler des actes antisémites en France qui augmentent depuis un an, et puis encadrer le droit de grève, et puis bien d'autres sujets évidemment avec vous. Alors on va commencer peut-être avec vous Mathieu, coup de cœur.
Un peu de légèreté pour débuter. Ouais. J'ai hésité sur ce coup de cœur et je me suis dit c'est quand même une journée très importante pour moi et pour beaucoup de supporters parisiens.
Oui.
Je ne vais pas vous embêter pendant des heures avec ce sujet, mais comme vous le savez, le Paris Saint-Germain joue un des matchs les plus importants, si ce n'est peut-être le plus important de son histoire ce soir. En demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund, Paris a perdu 1-0 en Allemagne. Il faut remonter le score. Il y a la possibilité pour la première fois de jouer à domicile avec du public. Ce n'est pas arrivé depuis 1995, puisque en 2021 il y avait le Covid, donc le match avait lieu à huis clos. Il y a une effervescence et moi je suis jugé parti puisque je suis supporter de ce club depuis plus de 30 ans, donc je ne serai pas objectif, mais voilà, c'est une journée de stress pour moi.
Et alors vous
allez
gagner ?
Moi, je fais plus de pronostics. Je n'en fais jamais, surtout quand il s'agit de mon club. Je suis trop superstitieux.
Et c'est bon lui d'avoir du public ou pas ?
Ah oui, c'est bon. Ouais. Moi, je suis. Je pense le foot sans public. Le foot sans public, c'est pas.
Ah bon ?
Oui. Bah, le foot ne peut. Quand le foot est revenu après le Covid, j'étais partagé parce qu'en même temps, on aime ce sport, donc on était content d'en revoir. On a eu une disette de quelques mois. Et en même temps, jouer dans un stade où il n'y a pas de public, où il n'y a pas d'ambiance, où il n'y a pas de bruit, où ça vit pas, c'est quand même un peu aseptisé. Donc oui, longue vie au public dans les stades et au foot populaire.
Alors on vous entend pas, on a un problème de micro, peut-être que vous, ça vous intéresse
moi je suis beaucoup plus ballon que ballon rond, donc globalement
géographique de la Creuse,
malgré tout effectivement c'est un club français, donc on peut ne que souhaiter qu'il se qualifie.
Pour vous, vous voyez vous agiter Jean-Christophe.
Oui, non, parce que moi je suis un supporter historique de l'Olympique de Marseille, donc
personne
pas forcément
personne
les grands, exactement, mais voilà. Et vous voyez, même les supporters, je pense, de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, qui vont jouer jeudi aussi une rencontre très importante aussi en Ligue, dans une Ligue Européenne, mais la Ligue Europa, ils seront très contents si le Paris Saint-Germain se qualifie pour quelques...
Pas sûr.
Si, je vous assure que si. Et même s'ils gagnent cette Champions League après, parce qu'il s'agit pas simplement d'aller en finale, pour Paris, c'est aussi de gagner ce match. Et pour revenir au stade, oui, les stades, évidemment que c'est très important. Et ça change tout. Ça change tout. Et c'est une manière, effectivement, aussi de trouver enfin dans cet espace un peu de communion. Et c'est pour ça que je vous dis que même les Marseillais aujourd'hui seront derrière le Paris Saint-Germain.
Moi, je ne serai pas derrière l'Olympique de Marseille jeudi, mais je suis moins fair play que vous.
Ah. On sent les partisans. On va votre coup de gueule, Jean-Christophe,
c'est un coup de gueule qui est lié à un ancien député européen ici. C'est une sempiternelle faiblesse des constitutions de listes des partis politiques français qui envoient des gens au Parlement européen comme si ce Parlement ne servait à rien, c'est-à-dire dans une espèce d'absence totale de compréhension de l'importance que ça peut représenter, même quand on est à 27 aujourd'hui, je dirais même plus quand on est à 27, une Europe qui s'est largement renationalisée. Et on envoie des gens qui, si on faisait des tests d'anglais, parlent pas anglais, alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, sur les cartes à la Commission européenne, il n'y a plus qu'une face qui est en anglais, c'est la langue européenne par excellence. On est face à des gens qui ne connaissent pas. Pire, on recycle des gens qui, pour beaucoup, étaient les plus absents pratiquement au Parlement européen jusqu'à présent. Ça serait pas si grave si c'était pas très important aujourd'hui, parce que le Parlement, dans l'édifice européen, il est quand même très important, notamment sur l'agriculture, vous voyez, par exemple, c'est un sujet qui est très important, et on envoie des gens qui sont pas ou peu compétents, et en plus, la présence française, par la faiblesse des résultats des trois grands partis qui forment normalement les trois grands groupes au Parlement européen. Je pense à Renaissance qui est en train de chuter largement dans les sondages et certainement dans l'expression du vote au final, donc le parti de Monsieur Macron. Les Républicains qui sont malheureusement pour eux à 6 ou 7 points, ce qui veut dire très peu. Ils sont dans un parti pourtant européen qui est le plus important, le PPE, avec le PSE. Et même avec Monsieur Glucksmann, si vous voulez, les représentants socialistes français, ils vont très peu peser à l'intérieur de ces partis. Donc ce qui veut dire qu'en plus, non seulement on envoie des gens qui sont pas très compétents, et qui sont pas tout à fait armés pour batailler au sein de cet espace qui est très important. Je connais bien, moi je suis à Bruxelles trois jours par semaine, et dans d'autres capitales européennes aussi, et ça veut dire, si vous voulez, que on nie l'importance et on nie plus largement une influence française européenne qui a été très largement reléguée. Donc on a des velléités, on a envie, tout se fait pas au conseil avec Monsieur Macron, tout se fait pas au conseil avec certains ministres lorsque c'est des conseils spécifiques et thématiques. Ça se fait au Parlement, ça se fait dans les capitales européennes, et ça on l'a abandonné. Et les partis politiques, à mon avis, sont très largement coupables entre recyclage, envoi de gens qui sont pas présents, calcul interne, voire volonté de promouvoir des acteurs locaux parce que c'est comme ça qu'on fait de la politique après. Je crois que c'est une grave erreur et c'est tricher avec la démocratie française, c'est tricher avec ce qu'est le Parlement européen aujourd'hui, et notre destin à tous, malheureusement, si c'était le leur, ça serait pas grave, mais le nôtre est lié.
Tout à fait d'accord.
Oui, c'est une très bonne analyse. Oui, c'est absolument navrant.
Absolument, et la politique, et en fait, on ne vote pas à cette élection pour l'Europe, on vote pour ou contre Macron, en gros.
Ouais. C'est devenu... Non, mais ça, c'est autre chose.
Mais
sur la composition... Non, mais la composition des listes, elle est consternante, pardon de le dire. Elle est absolument affligeante.
Parce qu'ils font de la politique intérieure, ils essaient de mettre des gens.
Pour le coup, c'est pas la première fois. Malheureusement, je dis pas que c'est... C'est malheureusement une tradition d'envoyer des gens...
Celle qui est très mauvaise, Valérie Hayé.
C'est la meilleure et la plus présente, et celle qui fait le plus de boulot au Parlement européen. Et de loin, de tous les candidats qui sont aujourd'hui.
Je suis tout à fait d'accord.
Moi, je travaille aussi régulièrement.
Phrase. Oui, je disais que celle qui est la meilleure pour l'Europe et qui a effectivement bossé est la plus mauvaise sur toutes les télés, elle ne sait pas faire, voilà. etc. Donc c'est vraiment effectivement
elle
très
était très mauvaise face à Jordan Bardella. Hein.
Elle a eu du mal à démarrer.
C'est le pire du média training, quoi. C'est vraiment
le pire.
C'est le pire de ce qu'on peut
faire. Les débuts ont été compliqués, mais la fin était meilleure. Je pense qu'elle a un entourage qui la conseille pas toujours dans le bon sens. Sinon, elle serait meilleure, je pense, parce qu'elle a des grandes capacités. Elle a des grandes capacités intellectuelles de négociation. Elle a beaucoup travaillé pendant les. Je suis pas très objectif comme notre collègue qui parlait du PSG. Moi, Valérie Hayé, c'est une amie, donc c'est assez compliqué de parler avec recul, mais malgré tout, et je suis d'accord, le Parlement européen, c'est sans doute celui qui prend les décisions qui ont le plus d'impact dans le quotidien des Français, en réalité.
En compliquant tout, parce qu'on nous explique nos chefs d'entreprise,
mais pas toujours.
C'est un drame pour les chefs d'entreprise.
Oui.
Dès qu'il y a une norme, on la multiplie.
Parfois, mais sur la composition des listes, je suis d'accord, et effectivement, le problème, c'est que c'est justement ceux qui vont aller le plus bosser au Parlement européen qui vont être les plus pénalisés aujourd'hui. Bardella, il y fout pas les pieds, ou quasiment, et quand il y est, c'est comme s'il n'y était pas. Mais effectivement, par contre, la foire à la saucisse à Knokke-le-Zoet, il y est pour aller faire des selfies, il n'y a pas de problème. Mais il remplit pas son mandat de député européen, et c'est un problème. Et effectivement, sur les listes, on voit un certain nombre de recasages. Mais je trouve que c'est peut-être un peu moins vrai que ça a pu l'être par le passé au niveau du recasage. Il y a quand même des gens qui même Glucksmann, il est quand même relativement présent au Parlement européen, il fait du travail, même s'il est très isolé au sein du PSC, parce que j'ai eu un rendez-vous avec Paolo Di Castro, qui est l'ancien ministre de l'Agriculture italien. Je peux vous dire qu'il m'a dit, mais les socialistes français, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils comprennent pas. Les socialistes européens ne comprennent pas ce que font les socialistes français globalement.
Ni les Français d'ailleurs.
Mais parce qu'on en voit, au-delà du fait qu'on, malgré tout, quand vous dites qu'on recasse pas, on a sorti même des gens qui étaient les plus présents. C'est-à-dire que dans les listes, en l'occurrence, alors c'est très transpartisan, c'est pas lié à l'un ou à l'autre. Et que Valérie Hayé soit très forte au Parlement européen, dans le cas présent, en tant que tête de liste, si vous voulez, son rôle à elle, c'est de tirer quelque chose, c'est d'être un marqueur pour que des gens puissent s'identifier dans une proposition de valeur européenne qui est importante. Alors malheureusement pour elle, elle coche pas cette case-là. Ça aurait une très, très bonne troisième, quatrième, cinquième, mais pas une première tête de liste. Après, ce qui compte, et ce que je voulais dire là-dessus, c'est en général, l'influence française à Bruxelles et dans les capitales européennes, elle est très faible. Elle n'est pas organisée, elle est d'autant plus faible aujourd'hui qu'à l'intérieur des groupes, et vous le savez, puisque vous avez été là-bas. Les groupes principaux encore à la prochaine élection, ça sera pas, ça sera pas les groupes du RN, du LFI, ça sera des gens qui sont le PPE, en tout cas le Parti socialiste, et le Parti socialiste même avec les 13 ou 14 qu'il va avoir français, qui en plus sont-ils, s'ils sont pas bien formés, ben effectivement ils vont avoir du mal à peser sur les 180. Députés, on parle de ça, si vous voulez, c'est pas 14 sur 20, c'est 14 sur 180. Et donc c'est pareil au PPE. Donc on a une faiblesse dans l'influence française qui va toucher Emmanuel Macron lui aussi, parce que si la France pèse moins au Parlement lui-même, même s'il est présent pendant deux ans encore au Conseil, il aura moins de poids. C'est très regardé depuis ailleurs. Si vous, chaque pays regarde en fait les résultats de chacun des partis.
Donc il faudrait voter socialiste,
bah non,
dire.
il faudrait en tout cas, en l'occurrence, que ces gens-là aient une offre politique qui soit suffisamment forte pour qu'on ait envie de voter pour eux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malgré le talent de Mme Hayé.
Sur ce que disait notre ami tout à l'heure sur le fait qu'il y ait des députés européens qui travaillent ou pas. Et en fait, moi, je voudrais élargir ça, malheureusement, pas qu'au Parlement européen. On connaît tous des députés qui ont vachement, des députés qui ont vachement bossé, qui sont impliqués, qui ont porté les textes, qui sont présents, qui bossent, qui font des amendements et qui sont pas réélus. Et on en connaît et on en connaît d'autres qui travaillent pas, qui sont pas au Parlement
et
qui ont une surface médiatique, on va dire, ou qui ont le goût pour ça et qui Donc malheureusement, et ça c'est, je pense que ça va en s'accentuant. Il y a une dichotomie entre travailler, être un parlementaire ou un politique sérieux. Produire et être élu. Malheureusement, le fait d'être
ne garantit
pas une réélection.
Le travail parlementaire proprement dit est assez ingrat assez invisible. Et effectivement, c'est plus payant d'être sur tous les coupages de rubans divers et variés en circonscription que de porter des textes et d'être rapporteur à l'Assemblée nationale.
J'en veux un peu à certains médias qui présentent, par exemple, toujours les séances à l'Assemblée en disant « Ah, regardez, ils sont trois, il n'y a personne, ils ne travaillent pas et tout », en n'essayant pas de faire un peu de pédagogie pour expliquer aux gens ce qu'est le travail en commission. Enfin, ce qui est le travail caché dont parlait Monsieur Moreau et ce genre de choses.
Mais je trouve merci de ce coup de gueule parce que c'est mais c'est vrai que c'est
on
une chose
de vue,
on perd de vue la réalité. Le réel c'est ça et que c'est une chose qu'on a ressenti, mais de mettre des mots sur ces listes qui sont composées de façon complètement absurde, enfin pas absurde mais qui répondent à d'autres intérêts que les intérêts européens, c'est assez lamentable. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec vous.
Sud Radio Libourne 106 Sud Radio.
Quitter le nid, mais je vois dans tes pas de danse.